Vous écoutez, on lit pour vous.
La victime utilise une métaphore percutante pour illustrer l'inceste. Un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 9 avril 2026 dans la presse. Une fille allergique aux arachides, mais obligée d'en manger chaque jour. C'est par cette métaphore, particulièrement percutante, qu'une adolescente agressée par son père pendant 12 ans a illustré son calvaire. Son bourreau a été condamné à 9 ans de pénitencier, mercredi, le 8 avril 2026. « Tu te résignes à manger l'arachide, ça ne fait pas du bien, c'est dangereux pour toi. La sensation est si désagréable que tu veux disparaître, tu veux t'arracher la tête, tu veux crier, mais tu ne peux pas. Si tu cries, la situation deviendra bien pire. » Mais l'envie est si forte et le fait de se sentir si impuissante te met en colère et te donne envie de pleurer. Plus tu consommes des arachides, plus ton cas s'aggrave et tu souffres à chaque fois. Tu dois manger une arachide par jour environ, parfois même plusieurs par jour, mais tu ne passes jamais une semaine sans devoir en manger une. Tu continues quand même d'endurer parce que sinon, la personne va être fâchée et ça te fait très peur. Cette lettre coup de poing composée par Simone, prénom fictif pour protéger son identité, 17 ans, a été lue lors de l'imposition de la peine de son père au palais de justice de Montréal. Pour protéger l'identité de la victime, nous devons taire le nom de l'accusé de 42 ans. Il a plaidé coupable en 2025 à des chefs d'inceste et d'exploitation sexuelle. La lettre de Simone fait ressortir toute sa douleur. La métaphore de l'arachide est simplement percutante, a insisté le juge Antoine Piché lors de son jugement. C'était insupportable. De la maternelle à la fin de l'adolescence, Simone a été agressée sexuellement par son père à d'innombrables reprises. Son père se disait amoureux de sa propre fille. Ils dormaient ensemble plusieurs fois par semaine dans le salon ou dans le lit de la fillette. Elle devait obtempérer pour éviter la colère de son père. Les mots qui me viennent en tête sont torture, colère, désagréable, horrible, souffrance, incompréhension, etc. Je peux vous dire que c'était insupportable, raconte Simone dans sa lettre présentée au tribunal. Un jour, le père indigne a violé sa fille sans protection. Cette fois-là, il avait placé un meuble devant la porte de la chambre, puis avait démarré un film d'horreur à la télévision pour éviter d'être dérangé par sa plus jeune fille. Les supplications de Simone ne l'ont pas ébranlé. Le calvaire de Simone a pris fin lorsque le père indigne s'est fait prendre sur le fait par sa conjointe à l'automne 2024. Pour Simone, le chemin sera long pour se reconstruire. Elle se dit détruite à l'intérieur et cassée en 1000 morceaux. Elle ressent une colère permanente et incontrôlable. Mais malgré sa souffrance, elle refuse d'abandonner. « Je veux vivre, moi aussi », lance-t-elle. « J'espère qu'un jour je pourrai mieux aller, même si cela me semble lointain, voire impossible », conclut-elle. La Couronne et la Défense ont présenté une recommandation commune de peine de 9 ans de détention. La procureure, maître Karine Lagacé-Paquette, a fait état des nombreux facteurs aggravants, dont la fréquence des agressions, la manipulation et l'abus de confiance. Elle a toutefois accordé un poids important au plaidoyer de culpabilité. L'avocate de la Défense, maître Camille Wynyard-Devaux, a souligné la collaboration complète de son client, qui a tout avoué aux policiers et n'a jamais souhaité de procès. Le juge Piché a entériné cette suggestion commune, raisonnable. La tête penchée, le visage triste, le pédophile a présenté ses excuses à sa victime, disant regretter le mal qu'il lui a causé. « Tu as fait le bon choix de me dénoncer. Il fallait que mes gestes cessent », a-t-il déclaré. C'était « La victime utilise une métaphore percutante pour illustrer l'inceste ». Un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 9 avril 2026 dans la presse.
Élever un enfant coûte près de 400 000 $. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 2 avril 2026 dans la presse. Dans un cours d'économie familiale en troisième secondaire, la professeure nous avait demandé de calculer la facture annuelle que nous représentions pour nos parents. En tenant compte des visites chez le coiffeur pour des permanentes, de mes cours de piano et de l'achat de cassettes, j'en étais arrivée à un montant qui m'avait surtout fait culpabiliser. Pour faire comprendre à des jeunes de 15 ans la réalité budgétaire de leurs parents, l'exercice était donc idéal. Ça nous donnait aussi une bonne idée de ce qui nous attendait dans le détour une fois à l'âge adulte. Bien entendu, mettre un prix sur un enfant restera toujours un exercice réducteur. On ne parle pas d'un projet immobilier, il est quand même question d'une vie, d'amour, de fierté, de famille. N'empêche, tous les parents s'entendent pour dire que les enfants, ça coûte cher. Combien ? Bien malin celui qui pourrait sortir un montant qui ferait l'unanimité dans les gradins de l'aréna pendant un match de Pee-wee. La seule bonne réponse est « ça dépend de beaucoup de choses ». Mais le gouvernement a besoin de données plus précises pour élaborer ses politiques publiques et déterminer les montants d'allocations familiales. Des estimations sont également requises pour établir les seuils de pauvreté ou fixer des pensions alimentaires. Alors, puisqu'il faut calculer, certains calculent. Ce qu'a fait la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, CFFP, de l'Université de Sherbrooke. Dans son étude publiée aujourd'hui, jeudi, elle s'appuie sur des estimations de Statistique Canada pour déterminer que le coût pour élever un enfant dans une famille biparentale à revenu moyen au Québec se situe dans une fourchette de 18 000 à 22 000 $ par année. Cela correspond à un coût cumulé d'environ 324 000 à 396 000 $ sur une période de 18 ans. Le calcul tient compte des particularités du modèle québécois, notamment en matière de services de garde, d'éducation et de couverture publique. Il inclut les coûts directs, nourriture, vêtements, garde, éducation, loisirs, soins de santé, transport. Mais en réalité, la facture est souvent payée plus longtemps par les parents. La proportion d'enfants adultes, 20-29 ans, qui vivent chez leurs parents ne cesse de croître. Elle frôle désormais les 50%. Les études sont longues et la crise du logement retarde le départ des oisillons, hors du nid. Beaucoup travaillent à temps plein et continuent d'habiter avec leurs parents pour épargner une mise de fonds pour une maison. C'est vu par les parents comme une manière d'aider financièrement leurs enfants, moins salés qu'un retrait du CELI pour contribuer à leur mise de fonds, et seul l'est. Mais ces années qui dépassent la majorité viennent avec des factures plus ou moins subtiles. Épiceries plus coûteuses, sorties familiales au restaurant, factures d'Hydro-Québec, etc. Si un jeune a l'intention de décrocher un doctorat tout en demeurant dans le sous-sol de son enfance, la barre des 400 000 $ pourrait facilement être dépassée. C'est sans compter que le calcul de la chaire n'inclut pas non plus les coûts indirects comme ceux sur les revenus. Les études sont unanimes sur l'impact financier de la maternité sur les femmes. Le congé de maternité réduit les revenus pendant des mois, ainsi que l'épargne retraite et les versements au régime de rente du Québec, notamment. Des parents, majoritairement des femmes, se privent ensuite de revenus en choisissant de travailler à temps partiel pour être plus présents auprès de leur progéniture. Si on voulait tout compter, il faudrait aussi ajouter ces coûts dans la liste. Mais comment s'y prendre quand chaque situation est unique? Comme la CFFP le constate dans son étude qui passe en revue diverses méthodes d'estimation des coûts directs d'avoir un enfant, les résultats vont du simple au quadruple. Et ce n'est pas tant à cause de la qualité variable de la recherche que de la complexité intrinsèque de la question. C'est pourquoi j'aime bien l'approche de la professeure d'économie, Shaley Phipps, qui n'a pas établi de montant en dollars. En 1998, elle a plutôt calculé qu'un couple avec un enfant aurait besoin d'un revenu supérieur de 16% par rapport à un couple sans enfant pour maintenir un niveau de vie équivalent. L'experte tient ainsi compte du fait que les coûts sont en bonne partie proportionnels au niveau de vie. Si le coup d'un enfant n'est pas aussi clair que celui de la livre de beurre, on sait avec certitude que sa présence joue un rôle déterminant dans la manière dont le budget familial est réparti. Le budget pour les restaurants passe dans le service de garde ou les compétitions de gymnastique, le projet de nouvelle cuisine est retardé après l'école privée. Comme le chantait Paul Pichet, les enfants peuvent faire tout ce qu'on leur apprend. Il aurait pu ajouter qu'en fin de compte, ils nous coûtent tout ce qu'on est prêt à leur donner. Les facteurs qui influencent les coûts d'un enfant. Source, chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Âge. Plusieurs études suggèrent que le coût d'un enfant augmente avec son âge en raison de l'alimentation, du transport, de l'habillement, des loisirs et des soins de santé. Nombre d'enfants. De nombreuses études suggèrent que les dépenses nécessaires pour élever un premier enfant sont supérieures à celles associées à un enfant subséquent grâce aux économies d'échelle. Revenus du ménage. Les dépenses liées aux enfants tendent à augmenter avec le revenu des ménages. Cependant, la majorité des études empiriques suggèrent que la part du revenu total consacré aux enfants tend à diminuer à mesure que le revenu du ménage augmente. Région géographique. Le coût de la vie varie d'une région à l'autre, notamment en raison des coûts de logement qui diffèrent significativement d'une ville à l'autre. C'était « Élever un enfant coûte près de 400 000 $ », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 2 avril 2026 dans la presse.
La vraie bataille de terrain. Un texte de François-William Croteau paru le 1er avril 2026 dans Le Devoir. Les débuts de mandat sont souvent chaotiques en politique municipale. À peine élus, les nouveaux conseillers doivent adopter le budget dans un calendrier serré dicté par une année fiscale qui se termine le 31 décembre. Lors de ma première expérience, nous avions essentiellement repris celui de l'administration précédente. Le temps jouait contre nous. Ce que je ne savais pas, c'est que le financement des organismes communautaires, lui, se renouvelle en mars, avec des fonds provenant de Québec, mais qui transitent par les villes. Tout ça pour dire qu'en voyant l'état du premier budget et en constatant le peu de marge de manœuvre dont nous disposions, un collègue beaucoup plus expérimenté que moi m'avait fortement recommandé de reporter les contributions pour réviser les programmes à 2 mois de l'échéance. Selon lui, c'est là que se trouvait notre marge de manœuvre. Je sais, je vous entends vous foutre de ma gueule. Imaginez la crise que cela a provoquée chez tous les organismes communautaires de l'arrondissement. Ils ne vivent pas avec des surplus, bien au contraire. Cette décision a semé le chaos, l'incertitude et une angoisse inutile chez des intervenants qui n'avaient vraiment pas besoin de cela. Résultat, j'ai dû faire la tournée des organismes pendant 2 mois pour évaluer la situation. Un surplus de travail dont ils se seraient tous bien passés. Je ne vous parle même pas de l'allure qu'ont prise les conseils d'arrondissement. Voilà comment on s'achète des problèmes inutilement. Cela a tout de même servi à quelque chose. J'ai compris que les organismes devaient produire chaque année une reddition de comptes très détaillée pour le renouvellement annuel de leur financement. Imaginez tout ce temps qui n'allait pas aux bénéficiaires. Dans un tel contexte, la prévisibilité devenait inexistante, d'autant que l'incohérence entre les 2 années fiscales créait un vide récurrent de 3 mois, alors même que nous leur imposions une fin d'année au 31 décembre. Un beau bordel pour des organismes qui tentaient de survivre année après année. Nous avons finalement ajusté le budget pour couvrir rétroactivement les 3 mois d'écart et renouveler les ententes aux 3 ans plutôt qu'annuellement, afin de leur offrir un minimum de prévisibilité. D'une décision douteuse au départ, nous en sommes venus à améliorer un peu leur situation. Quant à la fameuse marge de manœuvre hypothétique, bon, passons. Une chose que l'on comprend rapidement au contact de ces organismes, c'est qu'ils font des miracles avec presque rien. Sans eux, les coûts pour l'État seraient considérables et les conséquences sociales et sanitaires inimaginables. Les administrations publiques le savent très bien. Ils rendent des services à des coûts que l'État lui-même ne pourrait atteindre. Pourquoi croyez-vous qu'il s'est désengagé? Si vous cherchez la véritable définition de « faire plus avec moins », allez voir le travail des organismes communautaires. Ils sont les premiers et les derniers remparts d'une société en burn-out. Pendant que nous débattons, à juste titre et depuis des années, de l'importance d'offrir de la prévisibilité aux promoteurs immobiliers pour leur permettre de construire davantage et à moindre coût, qui se soucie d'accorder ce même répit à ceux qui s'occupent des plus vulnérables? Pendant que certains débattent des retombées fiscales de leurs contributions, j'aimerais que l'on pense davantage à la part intangible de leurs actions. Cet invisible qui peut faire la différence entre l'intégration d'une personne dans son milieu ou non, parfois même entre la survie et le reste. Cela ne se calcule pas, mais cela se voit dès que ces organismes manquent d'air. La crise de l'itinérance en est un exemple frappant. Sans soutien suffisant, les conséquences s'étalent dans nos rues et des vies se perdent, dramatiquement et inutilement. Ce que nous révèle aussi l'action du mouvement communautaire à bout, c'est la déconnexion de l'État quant aux enjeux de terrain. Pas par manque d'empathie, mais parce qu'il en est trop éloigné et que son agilité n'est pas suffisante pour faire le pont. Ces enjeux se jouent à l'échelle locale, celle qui relève des gouvernements de proximité. Ce sont eux qui voient les problèmes arriver, qui en gèrent les conséquences en temps réel et qui doivent trouver des solutions concrètes, ici et maintenant. La crise actuelle des organismes communautaires au Québec en est une illustration brutale. On leur demande d'en faire toujours plus, avec des moyens qui ne suivent pas. Ce déséquilibre n'est pas un hasard, mais le résultat d'un désengagement progressif de l'État, qui transfère des responsabilités sans les ressources. Pendant ce temps, ce sont les milieux les plus fragiles qui absorbent les contre-coups de ce glissement silencieux. Parce que derrière les structures administratives, les calendriers budgétaires et les conventions de financement, il y a des gens, des intervenants, des bénévoles, des citoyens qui dépendent directement de décisions prises parfois loin du terrain. Si on veut réellement changer les choses, il va falloir accepter une évidence. Les villes sont les mieux placées pour comprendre les besoins de proximité et y répondre. Encore faut-il leur faire confiance. C'était « La vraie bataille de terrain », un texte de François-William Croteau paru le 1er avril 2026 dans Le Devoir.
Voyage dans le temps, dans Mercier, Hochelaga-Maisonneuve. Un texte d'Émilie Côté, paru le 1er février 2026 dans La Presse. Ici, une église détruite par la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Là, des images d'un ancien village au bord du fleuve, appelé Petit Canada, regroupant 23 maisonnettes autour des années 1930. Depuis peu, on peut consulter en ligne gratuitement plus de 5000 photographies de l'atelier d'histoire Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Quand on fait de l'histoire publique et non académique, on se rend compte que ce qui intéresse les gens, ce sont surtout les photos. expose le directeur Olivier Dufresne. L'organisme en avait une belle collection dans ses archives, mais son classement et sa numérisation étaient plutôt aléatoires. D'où l'idée d'un catalogue numérique et d'une carte interactive qui viennent de se valoir un prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires. Tout est accessible en ligne gratuitement, indique fièrement Olivier Dufresne. Tout a été pensé pour que ce soit facile d'accès et intuitif. On peut faire des recherches simples par mots-clés. Quant à la carte interactive, elle regroupe et géolocalise quelques 3000 photos sur une carte du quartier, plus sont à venir, et elle permet de voir l'avant-après de certains lieux. Scènes de la vie quotidienne. Les photos proviennent surtout de gens du quartier, alors que de dévoués bénévoles s'affairent sans relâche à les traiter. De la collection de quelques 10 000 images, la moitié a été numérisée et mise en ligne jusqu'à présent. On continue de trouver de nouvelles boîtes de photos, indique Mathieu Mazot, en précisant qu'il ne faut pas s'attendre à des images institutionnelles ou formelles. Nos photos représentent surtout des scènes de la vie quotidienne et privées des gens. Ce sont les archives de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, dit Olivier Dufresne. Il faut parfois faire plusieurs recherches pour dater approximativement certaines images. Et parfois, des histoires ressortent, comme celle d'un missionnaire oblat de Marie-Immaculée qui a été emprisonné par les nazis. Mathieu Mazot affectionne particulièrement les clichés qui témoignent d'anciennes vies de quartier, comme celui où la construction du mât du stade olympique n'est pas terminée. Des photos permettent de constater l'évolution des bâtiments de l'ancienne cité de Maisonneuve, annexée à Montréal en 1918, dont celui du marché de style Beaux-Arts, inauguré en 1914. On peut aussi découvrir des images des inondations de 1928 dans le village disparu de Longue-Pointe, mais les plus vivantes sont en effet celles du quotidien d'autres époques. Un petit garçon devant un dépanneur, une dame qui reçoit fièrement un manteau de fourrure, des gens qui déménagent, des devantures de taverne. Le projet intitulé « Géo-visualiser les patrimoines de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve » a été difficile à financer, ce qui rend d'autant plus fiers Olivier Dufresne et Mathieu Mazot d'avoir reçu le prix d'histoire du gouverneur général. Ils n'ont obtenu qu'une subvention pour la carte interactive, mais ils ont pu compter sur un partenariat précieux avec le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal de l'Université du Québec, à Montréal, UQAM, et pu bénéficier de la plateforme de cartographie Schéma. Un quartier riche en histoire. Fondé en 1978, l'atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a la chance d'avoir ses bureaux en haut de la piscine du bain Morgan, dont l'édifice construit en 1916 a bénéficié de travaux de réfection il y a 2 ans. C'est l'un des nombreux héritages dans le quartier des frères Marius et Oscar Dufresne. Porté par le mouvement City Beautiful, ils avaient des idées de grandeur, de concert avec le maire de l'époque, Alexandre Michaud. Ingénieur, Marius Dufresne s'est inspiré des Champs-Élysées pour aménager les plans du boulevard Pie-Neuf et de l'avenue Morgan. Son frère, Oscar, a fait don à Marie-Victorin des terres du jardin botanique. C'est par ailleurs un hasard si celui qui est à la tête de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve, Olivier Dufresne, a le nom de famille des frères dont les anciennes maisons jumelées sont devenues le musée du château Dufresne. Quoi qu'il en soit, son collègue, Mathieu Mazot, et lui ont beaucoup d'ambition pour leur société d'histoire. Prochain grand projet, une exposition présentée au MEM, Centre des mémoires montréalaises, à la fin du mois de mars, sur l'ancien Institut du radium, situé là où est aujourd'hui la bibliothèque Maisonneuve et qui était à l'origine l'hôtel de ville de la cité de Maisonneuve. Encore un legs des frères Dufresne. En fonction de 1922 à 1967, l'Institut du radium a été créé par un pionnier de la lutte contre le cancer, le docteur Joseph-Ernest Gendreau. C'est là que la Bolduc s'est éteinte en 1941. Cela marque les débuts de l'oncologie au Canada, indique Mathieu Mazot. C'était le premier institut de recherche au Québec, poursuit Olivier Dufresne. En attendant, on peut consulter gratuitement, à sa guise, en ligne, le catalogue iconographique de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve, conçu par deux jeunes historiens qui ont à peine 30 ans et qui viennent de recevoir un prix des mains de la gouverneure générale Mary Simon. On peut faire l'histoire de tout Montréal avec les quartiers qui forment Mercier Hochelaga Maisonneuve, assure en conclusion Olivier Dufresne. C'était Voyage dans le temps dans Mercier Hochelaga Maisonneuve. Un texte d'Émilie Côté paru le 1er février 2026 dans La Presse.